Ici Lex Luthor Paradox. J'ai peut-être participé à un sport arrangé, mais s'il y a une affaire qui est vraiment pas arrangée, pantoute, c'est le podcast Laura s'écoute parler.
Bienvenue au podcast numéro 11. Je suis très content d'être présent et j'ai une grande annonce à faire. Personne ne s'est manifesté pour participer au podcast cette semaine. Vous connaissez ma stratégie. C'est pas moi qui achale les chroniqueurs, mais l'inverse. Mais là, je me suis fait avoir. Personne ne m'a achalé. Fait que attendez-vous à avoir du Laurent et encore plus de Laurent. Pour, j'imagine, votre grand plaisir, je vous le souhaite. Récemment, moi, je suis rendu à 38 ans, OK? Puis, pour vrai, j'ai plus 20 ans, puis je travaille beaucoup dans la semaine. Fait que récemment, là, je suis paresseux, ça n'a aucun bon sens. Ça arrive que je passe des grandes journées à rien faire. Puis là, je me suis dit, faudrait bien que tu changes ça un peu, puis que tu fasses des apparitions mondaines, ne serait-ce que pour le bien de ton podcast et de Boxing Town Québec. .ca. Fait que là, je suis sorti vendredi après avoir travaillé toute ma semaine. Je me lève à 5h du matin. J'aimerais qu'on me plaigne. Après ça, vendredi soir, je suis sorti. Il y avait un lancement d'un jeune rappeur qui s'appelle PC. Un gars qui est impliqué dans le monde de la boxe et du MMA. Là, je vais vous dire ce que je fais. C'est que j'envoie des courriels aux relationnistes de presse. Puis là, je me sers du 91.9 puis de Boxing Town Québec pour pas payer mes affaires. Tu sais, le gars, il y en a vu d'autres pour économiser. Fait que je me suis pointé au spectacle. C'était excellent. Je vous conseille ça. PC, j'en parlerai probablement plus tard où je ferai jouer un petit extrait de 20 secondes. Hier, donc samedi, pour ceux qui écoutent quand le podcast sort, je suis allé à Saint-Joseph-du-Lac assister à un gala amateur et... Je sais pas pour vous à la maison si vous avez déjà fait ça, mais l'ambiance des galas amateurs, c'est quelque chose. Tu sais, je vous dirais que les 140 personnes, ou 150, ou 160, on était peut-être 200 avec les boxeurs puis tout. On fait plus de bruit à 200 que les 600 au Casino de Montréal. Ça, je vous le garantis. Sinon, quand même eu une bonne fin de semaine. Chocolatito est redevenu champion du monde. Roman Gonzalez contre Kekafai. On va en parler plus tard. Mickey Garcia l'a emporté, mais non sans embûche et sans travailler très fort contre Jesse Vargas. Et on parle déjà d'un combat entre Mickey Garcia et Manny Pacquiao en Arabie Saoudite en juillet. On va bien sûr en parler. Joseph Parker a fait un retour. On va parler de Wilfred Sey qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques, un protégé de groupe Yvon Michel. On va aussi parler de l'actualité sur Elider Alvarez. Elider que Gilberto Ramirez s'est retiré d'un combat contre lui. Et on a amené Joe Smith en renfort, ce qui semblait être le plan depuis le début. On va aussi parler des combats du week-end prochain. Ça, c'est quelque chose que j'oublie récemment de faire, vous parler des combats qui s'en viennent. On va parler de Canelo qui aurait choisi Billy Joe Saunders, qui est ce fameux Canelo-là dont je vous parle à chaque semaine, n'ayons pas peur des mots. Et je voudrais saluer, ça c'est une demande spéciale de ma sœur, pas ben mais le choix, quand on en vient à la famille, je suis obligé de dire oui. J'aimerais saluer Anthony Mirabella et Matteo Mirabella, qui sont âgés respectivement de 7 et 10 ans et qui sont aussi mes héritiers. Merci d'être à l'écoute et continuez d'étudier si vous ne voulez pas terminer comme votre oncle au bureau de poste à faire un salaire modeste. Laurent s'écoute parler. Le podcast préféré de Bob Lévesque, retraité, mais toujours le meilleur photographe de boxe au monde. Bon, vous allez commencer à me connaître de plus en plus de semaine en semaine. Moi, j'ai commencé jeune à travailler au bureau de poste. J'avais seulement 16 ans. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait une petite erreur. Je suis jamais J'ai jamais été chercher mon permis de conduire, puis j'ai jamais acheté d'auto. Ça fait 20 ans que je roule en autobus, dans la misère, avec du monde partout, puis je me suis habitué comme ça. Puis là, j'ai été invité au gala à Saint-Joseph-du-Lac, au Parabellum 2. Puis là, je me suis dit, il faut que j'y aille absolument, tu sais, ça fait 25 fois qu'il m'invite. Je savais que mon bon ami Jean-Michel Bolivar allait être là. Joannie, là, je pense qu'elle est copropriétaire de l'endroit. C'est elle qui a l'air de tout gérer. Écoute, j'ai déjà sorti avec sa sœur quand j'avais 19 ans. Fait que je me suis dit, faut que j'y aille. Tu sais, j'ai pas le choix. Je peux pas toujours dire non. Fait que je regarde combien Uber coûte pour aller là-bas. 127$. Mais j'ai une amie qui y allait déjà. Donc, j'ai accepté d'y aller avec elle, mais écoutez, là, ça m'a fait peur. Les jeunes, hein, le cellulaire au volant, ça roule vite, ça passe à lumière rouge, ça fait quasiment du FaceTime. Bref, j'étais content d'être en vie rendu là-bas. Bon gala, je veux vous parler d'un jeune, Alexandre Gaumont. Lui, mon ami Vincent Tremblay, que vous avez connu dans le défunt podcast Boxing Town Québec. Gaumont, quand il était âgé de 24 ans, si vous vous rappelez bien, c'est le fils de Marcelin Gaumont du club de boxe Buckingham. Et Yvon Michel voulait ramener la série de boxe au casino de la Clémie. Ça a avorté. On doit parler fin 2017 dans mon histoire, là, où début 2018, puis Gaumont avait une entente, et là, je voudrais que je retrouve ça, mais il avait signé avec... Non, il n'avait pas signé. Bernard Barré voulait le signer avec Groupe Yvon Michel. Il y avait Gaumont, puis il y avait un autre. Puis Gaumont, qui est un jeune boxeur, il est charmant là, comme individu, mais il est très, très calme. Il ne tripe pas vraiment sur les foules, puis il a des problèmes... d'anxiété. Puis ça, je veux dire, regarde, Alex, moi aussi, j'ai eu des problèmes d'anxiété. À un moment donné, j'ai été 6 mois à pas sortir de chez nous. C'est le mal du siècle, puis c'est difficile, puis ça t'empêche d'atteindre ton plein potentiel. J'ai parlé à d'autres boxeurs professionnels. Si c'est arrivé à plein de monde, il y en a des fois, tu vas voir, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas boxé. Ils sont pas blessés, hein? C'est l'anxiété. Ça arrive à plein de monde. On est angoissé, on est anxieux. Malheureusement, c'est ça, 2020. Lui, ça l'a tenu un peu hors du ring. Mais là, il est de retour. Puis je vais vous dire une affaire, OK? Moi, on m'avait dit, Gaumont, il a des marteaux dans les mains. Je me suis pointé à Saint-Joseph-du-Lac. Il affrontait Christopher Guerrero. Il faut quand même comprendre que Gaumont, c'est le plus gros des deux. Guerrero boxe dans la catégorie en dessous. Il a quand même accepté le combat. Puis, il y en a un qui a 25 ans, puis l'autre qui a 18 ans. Mais ce Gaumont-là, il met de la pression sans arrêt. Il frappe avec des marteaux dans les mains. J'étais très impressionné. Toutefois, j'étais très impressionné par Guerrero aussi. Il attendait Gaumont d'un câble. L'uppercut de la main avant. Ting! Il pognait ça direct sur la cible. Très précis que la main arrière. Mais c'était pas le plus grand ring de l'histoire. Gaumont a mis de la pression. Il est allé chercher une décision majoritaire. Ces deux gars-là vont se retrouver un jour. Et Gaumont, lui, on va le retrouver chez les professionnels. Il a trop le style pour connaître du succès chez les professionnels. C'est certain que ça va se produire. On n'a même pas besoin de s'en inquiéter. En finale, il y a eu un combat entre Mikael Moffat et un gars du Tristar. Je vais chercher son nom pendant que je vous parle et j'étais impressionné. Moffat, c'est le propriétaire de l'endroit. La foule a levé là, quand il s'est pointé. Là, j'avais des frissons tellement que ça hurlait. Puis il affrontait un gars du Tristar. Je vous le dis, là, le monsieur... Non, vous allez comprendre pourquoi je dis le monsieur. C'est un homme, là. Il devait mesurer 6 pieds et 2, mettons. Mais il devait peser un 270 livres de... Pas de muscle, je dirais de masse. Il avait les jambes, les bras gros comme des séquoias. Javad Majoud. j'ai écrit sur Boxing Town, il n'est pas bâti comme un, il est bâti comme deux déménageurs. Et lui, il t'engage une firme de déménageurs, il peut arriver tout seul, puis tu te rends compte que tu en as pour ton argent. Donc, j'ai adoré ma soirée. Merci au Parabellum 2, au 3945 Chemin Loca, à Saint-Joseph-du-Lac. Pour ceux qui sont dans la région, allez voir ça. Sur place, j'ai vu Mathieu Germain, il y avait Jean-Michel Bolivar, j'ai vu Ghislain Madouma, Mike Moffa était là avec ses jeunes. Vraiment une belle soirée. Encouragez votre boxe locale. Le podcast Laurence écoute parler ne fera jamais relâche. Pour quelle raison? Le resto-bar Le Coin du métro me donne une somme beaucoup trop élevée pour que je pense arrêter, ne serait-ce qu'une semaine. Bon, finalement, on a des nouvelles pour Elader Alvarez qui a eu un appel d'offres avec Gilberto Ramirez. C'est Yvon Michel qui a gagné l'appel d'offres avec 350 000 US. Et là, Gilberto avait 2 jours pour répondre à l'appel d'offres. Il a pris les 2 jours au complet, il n'a pas répondu, il a demandé 3 autres jours de sursis pour réfléchir. On lui a donné les 3 jours, ça, demandez-moi pas pourquoi. Moi, je n'y aurais pas donné, j'aurais dit « reste d'un règlement, Gilberto ». Et là, Gilberto a refusé le combat après ses 5 jours de délibération. Donc, il n'était pas satisfait du 175 000. Gilberto Ramirez, pour vous donner une image, il est malheureux comme un diabétique dans un bulk barn avec Top Rank. Il veut pas être chez Top Rank. Je sais pas à quoi il a pensé quand il a signé là, mais il est pas satisfait des montants. Il est pas satisfait de son utilisation. Il a à peine boxé depuis qu'il est à 175 livres. Et il négocie pour se sortir de tout ça. Ce qu'on entend, c'est qu'il pourrait être le prochain adversaire de Dimitri Bivol sur les zones de DAZN. Donc, Elader Alvarez, qui est établi numéro 4, c'est un mini tournoi de la WBO. Le titre est laissé vacant par Canelo Alvarez. Donc, celui qui était établi numéro 1, c'est Gilberto Ramirez, il est parti. Entre-temps, Maxim Vlasov et Umar Salamov se sont entendus pour s'affronter, eux qui sont 2 et 3, si ma mémoire est bonne. Et les deux ont signé chez Top Rank entre-temps. Top Rank, ils se cassent pas le basic. Ils ont signé 4 dans le tournoi. Fait que, tu as une expression qui dit « si tu signes les 4 dans un tournoi, t'es pas mal certain de pogner le prochain champion. » C'est juste que ben, t'as les 3 autres sous contrat pis t'es obligé de leur donner, je sais pas, des petits nananes ou d'autres combats. Donc, Elader Alvarez, lui, qui était classé 4e, va affronter, je sais pas, Joe Smith est classé combien, mais on a vu que Sergey Kovalev a encore des problèmes de justice, donc ça l'a sorti pas mal du tournoi. Puis Top Rank semble vraiment avoir la mainmise sur la WBO dans ce tournoi-là. Donc, Elader Alvarez va affronter Joe Smith. On parle d'une date en juin. On parle du Centre Bell ou du la Place Bell ou ben, le Stade Jarry. Mais à quelque part à Montréal, on se le souhaite. Et si jamais ça arrive, il devra y avoir beaucoup de gens qui vont acheter des billets parce que Joe Smith est très populaire à New York. C'est pas impossible de faire la route entre New York et Montréal, surtout quand Top Rank est impliqué et que la carte a du bon sens. Du côté de Joe Smith, pour moi, c'est le candidat parfait pour Elader Alvarez. Pourquoi? Smith, il est gros et grand, il frappe fort, mais il n'y a pas de jeu de pied. Puis, il n'y a pas beaucoup de vitesse. Du côté de Elader Alvarez, il est grand, il est fort, il frappe fort lui aussi. Petite tendance, des fois, à tomber à plat pendant les combats, mais a le jeu de pied, a le jab et a les déplacements. Donc, tu sais, pour Mark Ramsey, là, ce ne sera pas très, très compliqué d'établir un plan de match. Il va dire, déplace-toi, poivre-le de jab, puis s'il est trop courageux pour entrer à l'intérieur, ben, sors la main arrière, puis sors de là. Ça devrait bien aller. Tu sais, Mark Ramsey va écrire ce plan de match-là
assez facilement ma prédiction, une décision unanime des juges assez large. On parle d'un 117-111 pour Elader Alvarez.
Mon but à moi, c'est d'avoir un Laurent 2.0. Puis je pense qu'on peut ensemble, moi et les entraîneurs et lui, et l'équipe et lui, d'amener son jeu à un autre niveau dans sa façon de jouer.
En fin de semaine dernière, il y avait seulement une carte qui valait vraiment la peine qu'on s'y intéresse. C'est un gala qui a eu lieu à Frisco, au Texas, présenté par Eddie Hearn sur DAZN. J'ai réussi à regarder un peu ce qui s'est passé. J'ai vu le combat final entre Mickey Garcia et Jesse Vargas. Victoire de Mickey Garcia, mais ça a été compliqué. Il perdait 3-1 ou 2-2, dépendamment de la fiche que vous aviez à la maison. Et là, au cinquième, il a envoyé Vargas au tapis, mais Vargas a recommencé à gagner des rondes. Garcia, vraiment moins à l'aise chez les 147 livres. On voit qu'il est moins gros. Hier, il avait de la misère à dealer avant, avec le jab de Vargas avant d'ouvrir la machine. Il demeure très précis, mais tu peux pas, Mickey Garcia, demander une revanche à Errol Spence après avoir eu l'air d'un sac de sable la première fois que tu l'as affronté. Tu peux pas faire ça. Là, il a demandé une revanche à Errol Spence. La grosse rumeur, c'est que Mickey Garcia pourrait affronter Manny Pacquiao en Arabie Saoudite au mois de juillet dans un gala avec de l'argent en veux-tu en v'là, on va revoler. Roman Chocolatito Gonzalez, je suis surpris, moi. C'est un gars qui a été champion dans trois catégories de poids. Il a perdu deux fois contre Rong Sival, aussi appelé Wizangsil Wangek. Écoutez, il n'y avait pas le numéro de ce gars-là. Il se faisait même faire plutôt mal quand il l'affrontait. Mais du côté de Roman Gonzalez, c'est un gars qui trônait quasiment au sommet, livre pour livre. Des bonnes victoires, je peux vous en nommer une puis un autre. Il était champion dans trois catégories de poids. Là, hier, il affronte Khalid Wafai, un Anglais. Puis, il était négligé. J'étais surpris un peu, puis je me disais, c'est exagéré, ça. Ben, Gonzalez a gagné, il l'a même arrêté au 9e. Donc, le retour de Roman Chocolatito comme champion de la WBA World. Puis, probablement qu'on va le voir dans d'autres grands combats. Julio César Martinez contre Jay Harris. La vérité, je ne l'ai pas écouté. Je lis que ça a été un combat exceptionnel. Donc, je vais être obligé de l'écouter. Joseph Parker a gagné par KO contre Chandel Terrell Winters. Un boxeur qui a évolué dans la division des 200 livres. Pourquoi on le connaît au Québec? C'est lui qui a arrêté Alexander Teslenko et qui a forcé Marc Ramsey à lancer la serviette. Terrell Winters, qui est un cogneur, qui avait la chance du cogneur, mais ça n'a pas passé contre Joseph Parker, qui faisait son retour. Et Israël Madrimov est devenu aspirant obligatoire à WBA contre Charlie Navarro à son 5e combat professionnel. Il a lancé un défi à Iris Landy Lara. Madrimov, c'est le boxeur le plus dangereux de la planète présentement. 5-0, 5 KO, fiche amateur épouvantable avec des KO, en voulez-vous, en voulez-vous, participer aux séries mondiales de boxe. Lui, quand Eddie Hearn l'a passé pro, il a demandé à Hearn, trouve-moi un combat de championnat pour mon premier combat professionnel. Je veux battre tous les records. Là, Hearn, il a dit, hey, donne-moi au moins 5 combats pour te classer, puis après ça, on va y aller. Mais là, vous voyez, il est aspirant obligatoire. Puis hier, il a dit, Iris Landy Lara, le meilleur boxeur 154, c'est lui que je veux battre. Israël Madrimov est un futur champion du monde. Ça fait le tour pour les combats du week-end.
Un petit peu plus tard aussi, on va parler avec le nouvel attaquant du Rocket de Laval, Laurent.
Il y a un dossier que je vous parle souvent, puis à un moment donné, j'aurai pas le choix. Là, il va falloir que j'arrête de vous en parler, mais je vais vous en parler pour, disons, l'avant-dernière fois. J'ai de plus en plus de mal avec la nouvelle façon de faire en boxe québécoise. C'est-à-dire qu'on vous présente un gala, on vous donne une date, on vous donne un endroit, on vous donne... Avant, on vous donnait les combattants qui allaient se battre. On vous donnait une finale, parfois, puis on vous donnait aucun adversaire. Puis moi, là, ça m'horripile. Quand je vais au cinéma, si tu veux prendre mon argent, tu vas me laisser savoir c'est quoi le film, c'est qui les acteurs, puis tu vas me laisser lire le synopsis dans le Journal de Montréal. Même chose au théâtre et à l'opéra. Quand je vais au restaurant, je veux au moins lire ce qu'il y a dans mon assiette. T'sais, c'est marqué lasagne, mais je vais voir que c'est des pâtes, du fromage. Puis je vais interroger la serveuse pour savoir s'il y a des poivrons, parce que j'aime pas ça. Là, on nous présente deux... Je vais vous parler de trois gars-là. Puis je vais frapper sur tout le monde, question de me faire encore des amis. Eye of the Tiger Management achète de la publicité pour présenter un hashtag 144 heures de boxe dans la deuxième semaine de mars. Pourquoi 144 heures? C'est une question qui m'a été posée par mon ami Jean-Philippe Ouimet. 144 heures, c'est 6 fois 24. Si vous y pensez, mardi, conférence de presse, mercredi, pesée, jeudi, gala, vendredi, pesée, samedi, gala. Donc, ça fait 6 x 4, là, rajouter lundi, conférence de presse, mettons. Donc, on nous présente une carte mardi, le 12 mars. Présentement, je vous parle dimanche, le 1er mars. Si vous savez calculer, on est à 10 jours de la pesée, on est à 8 jours d'une conférence de presse finale, en tout cas, voyez ça comme vous voulez. Cette semaine, on a lu que Sadriddin Akhmedov, sur Instagram, était blessé à l'épaule. Je vous l'ai tout de suite communiqué sur Boxing Town Québec, ton site préféré, ta page de boxe préférée. Donc, Sadriddin Akhmedov est blessé, il ne pourra pas affronter Mario Alberto Lozano. Il l'a annoncé jeudi, donc, allez voir vos calendriers. C'est toujours sur BoxRec. Donc, quelqu'un qui ne le sait pas va sur BoxRec, pense que Sadriddin affronte Mario Lozano, puis il se paye un billet. On sait que Steven Butler affronte Marco Reyes en finale. C'est tout. Il n'y a rien d'autre d'annoncé. Moi, j'ai connu une époque où tu me donnais au moins la carte au complet, puis j'attendais les adversaires. Je les attendais là, entre 3 et 4 semaines avant le gala. Là, j'ai rien. Allez, ce BoxRec, si vous ne me croyez pas, il n'y a rien. Il y a un combat annoncé pour le 12 mars, parce que l'autre, je le sais qu'il est annulé. Puis, vous me connaissez, je suis un enfant de nanane, OK? À 38 ans, là, j'ai pas besoin de me faire des nouveaux amis. J'ai un père à la maison. J'ai Bob Lévesque que j'aime comme un père. J'ai Jean-Luc Autret, anciennement de 12 rondes, qui est un ami. Je l'aime bien. J'ai Jean-Philippe Ouimet, qui m'a, pour le moment, jamais abandonné. J'ai Vincent Tremblay. Je m'entends bien avec les gars de boxe au menu. David Tétrault, Maxime Gabriel. J'ai une tonne d'ennemis aussi dans le monde de la boxe. Puis... Mais je ne vais pas vous les énumérer parce qu'il y en a trop. Mais je suis correct, là, tu sais, je vis bien avec moi-même. Puis là, je suis fâché parce que on me donne rien. On me donne un combat. C'est dans 10 jours, les amis. Là, je me dirige au 14 mars parce qu'il y a une autre carte. J'apprends sur BoxRec, je viens de le faire l'exercice. Là. Lexun Mathieu affronte Ryan Young, c'est présenté sur TVA Sport. Bon, ça, je vous l'ai annoncé il y a un mois. Bravo, excellent combat. Mathieu Germain contre German Argentino Benitez, un gars qui a fait une guerre avec Lewis Ritson, un Australien qui se bat avec les Anglais. C'est parfait. Je veux le comparable avec Lewis Ritson. Ritson, je suis content. Ici, on me donne deux combats, puis on me dit que Thomas Chabot est sa carte. C'est tout. Rien d'autre. Donc, je suis pas plus content. Puis, je comprends pas pourquoi on est si à la dernière minute. J'ai l'impression qu'on veut se protéger parce que les dernières fois, on s'est fait prendre. Du côté de la carte, le 28 mars prochain au Centre Bell, au Centre Vidéotron, imaginez, là, potentiellement sur papier, la carte du siècle. Top Rank est sur place. Puis ça, c'est un couteau à double tranchant parce que Top Rank, c'est eux qui payent, fait que c'est eux qui contrôlent les adversaires, c'est eux qui contrôlent les annonces, puis eux, ils s'en sacent. Ils sont prêts, eux autres, à t'annoncer quasiment les adversaires la journée de la pesée. Si vous ne croyez pas, commencez à suivre ça. Souvent, on apprend les adversaires la journée de la pesée. Rappelez-vous, Christian Billy aux États-Unis l'année passée. Là, je peux vous dire que Beterbiev affronte Fen Long Meng. Je peux vous dire que Janibek Alom Kanouli affronte Demetrius Ballard. C'est pas annoncé nulle part. Ça a glissé au Kazakhstan. Ça a été annoncé. Oscar Rivas, qui est troisième à WBC, devrait être parachuté deuxième avec la chute au classement de Deontay Wilder. T'es deuxième à la WBC. On commence à parler de la grosse affaire. T'as pas d'adversaire à 30 jours. Est-ce que je suis obligé de vous dire que c'est partout pareil? Ben oui, c'était pareil pour Joseph Parker. Je pense qu'on a su son adversaire la semaine dernière. Ça semble être malheureusement une nouvelle façon de faire. Mikhail Zuski rêve de se battre en championnat du monde. Mais Mikhail, je ne vais pas te faire peur. Peut-être que tu connais l'adversaire, mais plus l'annonce est loin, et là, tu es passé derrière Janibek puis Oscar Rivas à l'organigramme. Donc, tu es le quatrième combat en importance. Les gens à la maison, préparez-vous. L'adversaire de Mikhail Zuski, là, ce ne sera pas quelqu'un qui coûte trop cher. Là. On risque d'être encore un peu déçu, puis on va nous parler que c'est un processus. Bref, et Yvon Michel, que je défends tout le temps maintenant, c'est pas de la faute à Yvon. Top Rank, quand c'est un peu l'entente. Top Rank, on paye tout, on contrôle tout, puis tu vas vivre avec les délais. Mais il va falloir que je m'habitue, puis je ne pourrais pas me plaindre comme ça à chaque semaine, quoique... Souvent, quand tu te plains, ça fait de la bonne radio, comme dirait Gilles Proulx. Mais je suis vraiment frustré de la nouvelle façon de faire où on apprend les adversaires quasiment la semaine près. Moi, la semaine même. Moi, j'aimerais ça qu'on m'annonce l'adversaire deux mois à l'avance. Comme ça me permet de vous écrire des beaux textes sur l'adversaire, d'enquêter, puis de faire d'avoir du contenu pour mes émissions. Mais il va falloir que j'en fasse malheureusement mon deuil. Maintenant, la boxe professionnelle. Vous allez apprendre les adversaires quasiment la journée même. Et il va falloir que vous ayez la foi parce que vous allez acheter des billets à billetterie sans savoir qui boxe.
Parce que des fois dans tes chicanes, t'invites la mère à se pendre. Il paraît que t'as crossé tous tes amis d'enfance. Ils t'ont aidé, mais paraît même que t'as trahi l'entente. Tout ça à cause du jeu pis tes paris d'entente. T'as tellement peur, il paraît même que t'es parti en France. Y'a trop de rumeurs, j'écoute pas trop ce que les gens disent. Il paraît que si, il paraît que ça, il paraît que c'est des menteries. La vérité se fait rarement ressentir. T'as le feu au cul, mais c'est peut-être toi qui est parti l'incendie. Y'a trop de rumeurs, j'écoute pas trop ce que les gens disent. Il paraît que si, il paraît que ça, il paraît que c'est des menteries. La vérité se fait rarement ressentir. T'as le feu au cul, mais c'est peut-être toi qui est parti l'incendie.
Gardez en tête le nom suivant. Éric Bazignan, Rowan Murdoch. Okay. Les deux, Murdoch et Bazignan, étaient supposés s'affronter pour devenir aspirant obligatoire. Et sans que ça fasse trop de bruit, on a retiré Bazignan de ce combat pour aller lui obtenir plus d'expérience. Il a reculé de 1 à 4 à WBO, puis on va revenir à la charge plus tard avec lui du côté de Eye of the Tiger. Gardez ça en tête. Le champion WBO des 168 livres, c'est Billy Joe Saunders. On a appris cette semaine que il y a, selon Eddie Reynoso, là, c'est jamais officiel. C'est ça qui est compliqué, OK? Mais ce serait lui qui accepte le combat contre Canelo. 7,8 millions US minimum. Avec une cote sur les billets puis les pay-per-view. Donc, je ne sais pas combien ça peut faire. Là, 7,8 plus la cote. Billy Joe Saunders, je suis content parce qu'on est le 1er mars. Le combat a lieu le 2 mai. C'est moins pire que les combats de Canelo à 28 jours qui annoncent ses adversaires. Donc, on peut penser que Billy Joe Saunders négocie depuis un mois, va avoir un camp d'entraînement très sérieux. Et je pense pas que Billy Joe Saunders peut gagner. Mais je pense que Billy Joe Saunders, bien préparé, avec un vrai camp d'entraînement. C'est un gaucher, il est quand même dur à atteindre. À 168, il a l'air à frapper fort. Bon, je vais espérer qu'il va faire une bonne performance, mais je le vois pas battre Canelo. Pourquoi je suis content? C'est parce qu'entre-temps, on va parler de Juan Murdoch tout de suite. Tant qu'on va, on va vider le dossier. Juan Murdoch va affronter Zach Parker, probablement pour un aspirant obligatoire. Parker est un Australien de 18-0. Murdoch, si ma mémoire est bonne, est aussi Australien. C'est lui qui, à l'époque, était supposé affronter André Ward. Puis on dit, voyons, ce gars-là est trop jeune, puis il n'est pas assez bon. La commission avait refusé. Puis il a fait son petit bonhomme de chemin, puis il est rendu meilleur. Murdoch contre Parker est probablement pour l'aspirant numéro 1. Canelo va aussi probablement détrôner Billy Joe Saunders. Mais Canelo, il commence à se faire challenger, puis les organisations n'aiment pas un boxeur qui est champion dans trois catégories de poids différentes parce que ça devient impossible de, premièrement, sauter d'une catégorie à l'autre, ça devient impossible de tout défendre ces ceintures-là. T'sais, imaginez un gars qui serait champion simultané de 5 titres dans 3 catégories. Il faut que tu défendes tes ceintures à chaque année. Ça fait 5 combats, 3 catégories. Ça ne tient pas la route. T'sais, abandonne tes ceintures, le rouquin. Donc, Canelo. L'idée, c'est que Canelo gagne, abandonne son titre, qu'on recule Billy Joe Saunders derrière Bazinian au classement. Murdoch puis Parker, quelqu'un devient aspirant numéro 1. Et là, la WBO qui se dit, moi, je veux collecter des frais de sanction, va se dire, ben, j'envoie pas la ceinture à Murdoch de même parce qu'il est aspirant. Là, on espère que Bazinian, tu vas tomber troisième, le 2 est vacant. T'sais, vous savez comment ça fonctionne en boxe. Fait que là, le même Juan Murdoch, il est 1, admettons. L'enveloppe se rend à Bazinian. Boum! Bazinian qui a refusé Murdoch il y a peut-être 6 mois. 6 mois plus tard, pour affronter le même Murdoch pour la ceinture de championnat laissée vacante par Canelo qui la défendra pas finalement parce qu'il y a trop d'affaires à s'occuper. Les 175, les 160, donne-tu une revanche à Golovkin, tu sais. On sait plus qu'est-ce qu'il fait. Donc, Éric Bazinian, moi j'ai tout le temps l'impression qu'en boxe, ok, que Camille et Stéphane, il y a un bureau secret, puis Yvon Michel aussi. Puis là, ils ont une craie, là, avec plein de tableaux, puis là, ils font des scénarios. Puis là, ils viennent de faire le scénario que je viens de vous faire avec Bazinian. On a refusé Murdoch tout de suite, il y a 6 mois, parce qu'on va leur pogner pour le titre si tout tombe en pièces. Puis sinon, mais change ton scénario. Tu sais, c'est comme un livre, un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Il y a plusieurs scénarios, dépendamment à ce qui se passe. Donc, ça va être intéressant, Canelo Saunders. Ça va avoir beaucoup d'incidence sur la suite des choses pour Éric Bazinian. Ma prédiction, 118-110, Saúl Alvarez. Puis attendez-vous à ce qu'on garde Bazinian actif environ au mois de mai. Parce qu'il faut le préparer, il faut qu'il se fasse voir. Parce que c'est lui au Québec qui est le plus près d'un combat de championnat du monde.
Vous écoutez Laurent S'écoute parler, le podcast.
Le boxeur Wilfred Tséhi s'est qualifié pour représenter son pays aux Jeux olympiques. Wilfred Tséhi, il est surnommé Wild Boy, si ma mémoire est bonne, et il signé avec le groupe Yvon Michel. Ça faisait pas l'affaire de tout le monde qui tente de se qualifier chez les Olympiques parce qu'on disait que ben, s'il échouait sa mission, il pouvait voir sa valeur à la baisse. On peut penser que Tséhi est un des favoris pour monter sur le podium. Donc, ça va être à suivre. Félicitations à Tséhi. Bravo au groupe Yvon Michel qui a vraiment en Wilfred un méga prospect. Là, j'imagine que ça met un peu comme son évolution chez les pros de côté, mais il va revenir avec une tonne d'expérience, puis ça va aller très vite pour lui en 2021. Donc, Wilfred, tu vas représenter le Cameroun, mais on va quand même te suivre et te supporter. Quand même intriguant, l'après Tyson Fury, Deontay Wilder. Deontay Wilder qui avait le privilège un peu du champion d'exiger une clause de combat revanche. Il a tout de suite pesé sur le piton. Puis là, il va avoir sa revanche possiblement en juillet. Je peux comprendre du côté de Wilder. Il a été fidèle à PBC. Il a refusé, je pense, plus de 100 millions pour rejoindre DAZN puis Top Rank. Donc, avec PBC, il est un peu isolé. Il n'y a pas beaucoup de poids lourd. La meilleure option pour lui, c'était de demander la revanche et d'aller collecter une grosse paye. Oui, ça m'a fait sourire cette semaine, mais moi, j'étais un éternel naïf, puis j'ai cru cette histoire-là. Tu sais, le costume de 45 livres avec les batteries, ça l'a fatigué. Ça va, moi, j'achète l'idée, puis tant mieux s'il y a une trilogie. Puis j'étais content de voir Tyson Fury dire « Bon, ramenez-moi-le, ça me tente, je suis prêt, je vais leur démolir. » Et Eddie Hearn m'a fait un peu sourire. Lui, il avait l'air à penser qu'il était capable de payer tout ce beau monde-là, autant Kubrat Pulev que Deontay Wilder, pour qu'il attende, puis tout de suite faire Fury contre Anthony Joshua. Le père de Tyson Fury, John, a dit « C'est possible de faire Fury-Joshua pour l'unification complète. La négo commence à 250 millions US. » Je vous dis, juste quand j'ai entendu le montant, là, j'ai frisé les oreilles. Donc, ça fait un peu le tour de Fury-Joshua. Tout a vraiment été... Fury Wilder, tout a été raconté cette semaine. On a vu Andy Ruiz au travers essayer de se têter un combat contre Tyson Fury. Ruiz, qui semble vouloir avoir d'autres millions sur la table, devrait affronter lui, Luis Ortiz. Joseph Parker est dans le détour, Oscar Rivas, mais je pense qu'on va être congestionné au sommet avec Fury Wilder, Joshua, semble intouchable. Vont probablement essayer de se battre entre eux, collecter une tonne de millions, mais si j'étais un gars comme Oscar Rivas, tu sais, qui va possiblement être classé deuxième à WBC, reste là. Je vais vous le dire, là, j'ai l'impression qu'on va protéger son rang à la WBC. Attendez-vous pas à ce qu'il soit impliqué dans des énormes combats, parce qu'on va attendre qu'un gars comme Fury, qui est imprévisible, prenne sa retraite ou mette sa ceinture vacante. Puis là, une fois que tu es assis dans la position numéro 2, faites le calcul, ça prend deux boxeurs pour un combat, donc 1 versus 2. Puis là, boum, tu es en combat de championnat du monde. Quoique la WBC est tellement compliquée qu'ils ont un champion intérimaire en Dillian White, donc c'est comme 1, 2, 3. Mais moi, je vous dis, on va protéger l'aspirant numéro 2. On va attendre que les combats linéaires se fassent. Puis une ceinture va devenir vacante. Puis ça va profiter à des gars comme Joseph Parker, à Oscar Rivas, à un Kubrat Pulev qui pourrait devenir champion régulier, à Gerald Big Baby Miller qui devrait essayer de se placer dans les classements d'ici là. Moi, je m'attends à ce que un des trois qu'on a nommé, bon, excluons, mettons, Wilder, réussisse à unifier le tout. Puis après ça, ben ça va être la valse des abandons parce que c'est impossible de tout conserver. Et là, il y a des jeunes, il y a des nouvelles têtes qui vont profiter. C'était la situation chez les lourds. J'aime ça faire le podcast. Le seul moment que j'aime pas, c'est... la conclusion. J'ai toujours trouvé que ça servait à rien. Quand j'ai commencé à écrire des textes sur Boxing Town, je mettais pas de conclusion. Puis ça finissait raide sur un moyen temps. Tu sais, moi, si j'écrivais des films, c'est une méchant meurt à la fin. Boum, on me part le générique. Alors, cette semaine, comme conclusion, j'aimerais vous dire au revoir. Et il y a trois gros podcasts de boxe là. On calcule que Laurence Écoute Parler, c'est un gros podcast de boxe parce que je regarde les codes d'écoute, c'est un moyen podcast de boxe, mais j'aimerais m'adresser aux deux autres. Gênez-vous pas pour prendre congé, étirez vos vacances. C'est pas évident de faire un podcast. Reposez-vous, les gars. Je m'occupe de tout. Comme ça vous permet de recharger vos batteries. Puis moi, ben, ça me permet de me faufiler entre vous deux. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On revient la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver quelqu'un en entrevue. J'ai trouvé un matchmaker d'expérience qui va venir dans les prochaines semaines nous expliquer la difficulté d'organiser des combats. Tu sais, on a vu ce qui est arrivé que le Français qui n'a pas voulu affronter Artem, des problèmes de visa, beaucoup d'adversaires qui ont changé à la dernière minute. On va essayer de démêler tout ça. C'est un projet des prochaines semaines. Merci et, comme dirait mon ami Jean-Pascal, gardez le punch!